dago txoria izango.
Spectaculaire commence enfin après ce long générique. Spectaculaire émission numéro 107. Christophe Rollin au micro. Gérald est aujourd'hui avec moi. Isa devrait arriver. Et nous avons une invitée. Enfin, nous renouons avec les invitations. C'est une excellente chose. Marjolaine Larrivé est avec nous. Je l'annonçais sur le blog. J'ai mis main, lien, plusieurs, tout un tas d'éléments qui indiquent qui elle est. C'est une plasticienne et tout ça. Mais surtout, je concluais sur le blog en disant, vous souhaitez en savoir plus? Eh bien, écoutez-nous. Écoutez-la. C'est elle qui va parler et qui va nous en dire plus sur, vous allez entendre ce sur quoi elle travaille. C'est assez, assez spécial, voilà. Pour commencer, je vais quitter ce ton assez joyeux en ce mercredi 12 octobre 2016, puisque Gérald et moi avons appris une nouvelle assez difficile, assez dure. Quelque chose qui nous a fichu un bon coup. Alors au lieu même d'en parler, je vais seulement dire ce que c'est. Il s'agit du décès de Francis de Coninck, invité déjà venu il y a de cela pile 3 ans, le mercredi 2 octobre 2013. Ça remonte à cette époque-là. Et donc nous souhaitions lui rendre hommage. Et en ce début d'émission, on va lui laisser la parole. Il va lire un texte de son ouvrage Sénégal, mon ami. Et puis il va ensuite lire. Il va lire 2 textes. Et puis voilà, c'est pour marquer comme ça la chose. Une fois que ce moment sera passé, nous reprendrons avec Marjolaine. Là, j'embredouille tellement je ne sais quoi, il fait froid quand même dehors, hein, je crois. Nous reprendrons avec Marjolaine Larrivé, qui est bien notre invitée. Mais nous rendons hommage à Francis, nous rendons hommage à ce chic type, hein, je crois. C'est comme ça qu'on le qualifiait, Gérald, toi et moi. Rendons hommage à Francis et puis poursuivons. Vous nous écoutez sur radiocanu.org si c'est sur Internet. Et sinon, si c'est à Lyon, c'est le 102.2 de la bande FM.
Amadou Mpateba, que certains connaissent, qui a vraiment permis de connaître la culture peul. La bonne tradition veut qu'après un long voyage, celui qui en revient n'entre pas en plein jour au logis. Il attendra à quelque distance que le soleil décline fortement vers l'ouest et répande sur la nature son or, couleur porte-bonheur. Mon texte. Cher ami, c'est le soir toujours que ton pays m'accueille. Il me faut quelques heures pour saisir et comprendre le changement radical auquel je dois faire face. C'est dans un plongeon mené sur le mode de la self-immersion culturelle incontrôlée que j'impose un parcours solitaire pour opérer ma transformation du penser blanc au penser noir. Je sais qu'il me faudra plusieurs jours pour me défaire de mes réflexes physiques habituels et malmener ma façon de penser. Je préfère les tenues noires pour mon arrivée. Le changement de point de vue, qui nécessite de l'effort toujours, a quelques difficultés parfois à se concilier avec mon statut de vacancier. Le bouleversement sensuel imposé par le passage du tout aseptisé au tout olfactif ne relève pas de l'évidence, le basculement culturel encore moins. Dans la solitude de cette première nuit, j'aime retrouver ta moiteur, ton extravagance et ton insouciance sonore. Je devine ta nuit et scrute tes rêves silencieux de capitale fêtarde. C'est au lever du soleil toujours que de ma terra j'entrevois ton retour à la vie, ton peuple déjà s'affaire sur les nombreux travaux qui balisent ta cité. J'aime ces retrouvailles faites de 1001 questions, de doutes souvent. La séparation impose sa lecture occidentale pessimiste. Aurons-nous encore des choses à nous dire et à partager ? M'accepteras-tu chez toi une fois de plus? Toléreras-tu encore et toujours mes clichés d'intellectuels de gauche plus artistes et poètes comme d'affaires ou politiques? Supporteras-tu encore longtemps ma forte propension à vouloir donner des conseils là où je mériterais d'en recevoir? C'est ton sens inébranlable de la fidélité et du partage qui parvient à apaiser les tout-babris qui me caractérisent. C'est ta capacité à me surprendre qui impose ma présence ici. Ta tolérance me rend admiratif. C'est le premier jour toujours que je prends des nouvelles des tiens. T'es bonne, excelle dans ces séances de rattrapage de vie où j'apprends la mort d'un oncle, la naissance d'une fille, le mariage d'un cousin. Des grands travaux et des petits potins, elle livre les secrets sans jamais oublier de s'informer de la vie de ma parenté. Sous des airs de grande cité, Dakar a d'éternels accents de grand village. Rien ici n'échappe à tes oreilles, à ton regard. C'est quand ta maison est livrée au contrôle des fatous et des gardiens que je me prépare le mieux à nos retrouvailles. Leur accueil est toujours très chaleureux. C'est sans doute avec eux qu'il m'est donné de mieux, de comprendre le mieux la réalité de ton peuple. Leur lecture des derniers événements politiques ou conflits sociaux a toujours une modération et une tolérance qui me surprennent. De leur patron ne font-ils pas d'excessives louanges? L'occidental ne mettrait-il pas davantage de rébellion ou de protestation dans sa lecture du monde? Le premier soir, quand le soleil décline loin à l'ouest, révélant tes îles cousines, je m'invite enfin, pour satisfaire ton goût pour la bienséance et l'élégance discrète, je retrouve le sens de l'apparat. Pour la vie publique de Paris, j'abandonne la tendance XXL pour des tenues plus formelles de celles que mon âge impose et qui en rien ne peuvent agresser ceux qui n'ont rien à montrer. Tu me surprends toujours par ta lucidité à ne jamais oublier, quelles que soient les circonstances, la misère économique des tiens. Le premier soir, de la palette des couleurs, je limite la gamme au blanc et au noir, pour lequel tu as une prédilection notoire. Je recouvre mon corps, habitué à plus de dénuement. Jamais sans doute n'ai-je autant réalisé qu'ici combien de toubab avait tendance à oublier son âge pour élaborer sa garde-robe et à étaler à nu, ce qui n'était plus tout à fait désirable. Jamais sans doute n'ai-je autant réalisé également le poids du l'âge qui impose ses images et ses rôles. Et c'est avec soulagement, en somme, que j'abandonne ici la course au temps de l'Occident qui s'accommole fort mal du vieillissement pour davantage de conventions, de silence et d'interrogation. Quand sur ta maison le soleil répand au plus fort ton or, alors je frappe à ta porte. C'est le regard baissé, l'accolade discrète que nous saluons enfin nos retrouvailles. Et c'est après avoir mangé autour d'une bonne bouteille et rarement d'un verre de thé que je me surprends à oublier que pendant plusieurs mois nous avons été séparés. Je sais qu'après ces premiers échanges, il faudra attendre plusieurs autres soirées pour pouvoir plonger un peu mieux au cœur de nos réalités. J'aime ton mode de retrouvaille qui impose la mise en scène et les déguisements formels, où l'essentiel est tu parce qu'il relève de l'évidence, où le léger est célébré pour dire l'amitié, où le partage impose sa générosité. Sénégal, redis-moi encore et toujours que je suis le bienvenu chez toi, que de notre histoire commune, tu as encore des choses à m'apprendre et à m'expliquer. N'est-ce pas sur le terrain de la francophonie et de sa culture émergente que nous avons encore, toi et moi, par l'intermédiaire de nos enfants, tant de choses à entendre, de ces mondes nouveaux, nourris des uns, enrichis des autres, continuons à rêver ensemble pour le bonheur des nôtres, quand le soleil a fini de répandre son or, porte bonheur sur les pierres du muret, ne faut-il pas parfois avoir la sagesse de se coucher?
Merci Francis pour cette homélie.
Eh bien, Gérald, tu peux reprendre tes mots. Merci Francis pour cette homélie.
Merci Francis, et
Voilà, on a passé sa voix et la messe, puisque Francis avait la foi. Donc je lui souhaite d'aller au paradis, en quel il croyait. Et je le remercie pour tout ce qu'il a donné à beaucoup de monde.
Isa, tu es arrivée. Bonjour Isa.
Salut tout le monde.
Et donc bonjour, maintenant je reprends. Bonjour Secrète Savonnette, c'est plutôt le nom, c'est ça?
Oui, bonjour.
Bon, Gérald, il est l'heure de l'interview, voilà, 14h13. Bon, un premier temps, des questions surtout, enfin une question principale.
Donc en fait,
qui
est déjà, Marjolaine Larrivée expose depuis samedi 8 octobre à la galerie dont on a déjà parlé, qu'à Gaëtan, vers la place Gaëtan, 4 place Gaëtan. Donc la galerie d'Ettinger Meyer, spécialisée dans art primitif, art premier, je ne sais pas comment on peut dire, art tribal peut-être même mieux, c'est mieux.
Les
art contemporain.
Africaine.
Voilà. Et donc, Marjolaine Larrivée en sous-titre Secrète Savonnette, bas-relief sculpté sur, on va en parler longuement, une matière un peu bizarre. Elle expose depuis le samedi 8 octobre jusqu'au samedi 29 octobre 2016. Et le vernissage était vendredi, voilà. Et je vous invite vraiment à aller voir cette exposition, d'autant plus qu'il y a une deuxième artiste dans cette très belle galerie, ouais, qui est Béatrice Elso, qui nous vient de Biarritz, qui propose aussi un travail très très intéressant de dessin, de boîtes dessinées, de boîtes d'optique à partir d'un univers très singulier. Mais revenons-en à Marjolaine, puisque les absents toujours tort. Béatrice Elso est rentrée à Biarritz, elle n'a pas pu venir, on aurait pu faire une émission
vrai.
En duo.
Ça aurait été chouette.
Voilà, bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre quand même. Puisque nous avons ici une grande artiste et une spécialiste de la sculpture sur...
Tadam, sur
entre
le
autres.
Savon.
Voilà.
Oui.
Alors, depuis 2016...
Oui. La toute première date de 2000, mais bon, j'ai laissé ça dans un coin, je bidouillais pas mal de choses, et puis je les ai retrouvées au fond d'une boîte il y a peut-être 6 ans, et j'ai recommencé un peu comme ça, par curiosité.
C'était arrivé comment en fait, cette idée de sculpter un savon?
Parmi plein d'autres idées, mmh, en fait. C'est juste la différence avec les autres choses que j'ai faites, c'est que j'y suis revenue, quoi.
C'est ça?
Ouais. Moi j'ai toujours bidouillé avec mes mains... Mmh. Dessiner, je viens du dessin, mais...
Alors, un petit parcours, puisque on va être fidèle à notre protocole de spectaculaire qui consiste à interroger nos invités sur leur passé. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? C'est la fin. Alors, que faites-vous? C'est le présent. On va commencer par le passé.
Alors,
un petit parcours de formation de...
Moi, j'ai commencé mes études à l'école Estienne à Paris. Donc, et je me suis assez vite dirigée vers la gravure, donc le monde de l'estampe. Donc, quand on dit gravure sur métal, il y a des gens qui croient que c'est vraiment de la sculpture en volume. Non, moi, c'est juste un procédé pour reproduire des images sur une plaque en métal et après, tu l'imprimes sur du papier. Mmh. Donc, j'ai fait un diplôme de gravure dans cette formation à l'école Estienne qui est vraiment géniale. Et je me destinais quand même au monde de l'édition plus vaste. Dans le sens de l'édition contemporaine, quoi. Pas forcément des très beaux livres, très rares, gravés avec un original comme ça, mais l'édition, je sais pas, l'illustration jeunesse. Mmh. Donc j'ai poursuivi mes études et j'ai fini par être acceptée à l'école des arts décoratifs à Strasbourg. C'est comme ça que...
Deux écoles très réputées.
Oui, mais bon, j'aurais pu aussi, j'étais pas prise à Paris après le concours et j'aurais pu, je sais pas, faire la fac à Paris. C'est juste que j'ai pas vraiment lâché l'affaire. Mais bon, ils m'ont accepté aussi. Mmh. Les arts déco à Strasbourg, c'était pas mal du tout. Hein. Mmh. Un bel enseignement. Et beaucoup de dessins pendant tout ce temps-là. Et puis des choses qui me servent encore maintenant aussi, même parce que je deviens aussi enseignante, quoi. Donc, comme j'ai eu des très bons profs. J'essaye de transmettre des choses.
Et qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une école de gravure sur métal à une école d'art décoratif?
Pour moi, la ligne directrice, c'était le dessin au sens de la ligne. Donc, en fait, quand je suis venue à la gravure, c'était juste un procédé pour faire une image. C'est mieux, là, je parle plus devant.
Non, c'est très bien.
Ah non, c'était pas ça.
On a fait une spéciale gravure. Nos auditeurs
c'est vrai
fidèles,
j'ai raté
auditeurs,
ça.
Évidemment, qu'on a oublié de saluer d'ailleurs, vu les circonstances. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Merci d'être fidèles au rendez-vous spectaculaire.
Eh ouais, c'est ton
on
retour.
On a fait une spéciale gravure avec une graveuse. Donc, on vous reporte à cette émission pour savoir tous les secrets de la gravure.
Ah ouais, ça m'intéresse. Et donc oui, en fait, j'étais déjà dans l'idée de pousser mon travail de dessin. Moi, j'étais vraiment une dessinatrice. J'étais à fond depuis que j'étais petite. C'était vraiment très important. Et donc, c'est comme quand on pense aux gravures. Je ne sais pas, Gustave Doré, ces choses qu'on voit un peu facilement, même quand on n'est pas dans le monde de l'estampe. Mmh. On voit que ça pousse la ligne à un point quand même assez extrême. Et pour moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on obtenait ces images aussi précises et aussi raffinées. Et donc, ça a été une étape, quoi. Et je ne regrette pas, hein. Ouh là là.
Et ça se sent dans votre travail. C'est vrai que cette apologie de la ligne raffinée, on la sent à la fois dans votre travail de gravure, parce que vous continuez à faire de la gravure, dont une partie est exposée à la galerie.
Oui.
D'ailleurs.
Ah oui.
Il y a quelques gravures, deux ou trois gravures.
Il y a deux gravures, une aquarelle et deux travaux en couleur qui sont ni l'un ni l'autre, c'est du crayon de couleur. Oui, ouais, mais en fait, j'ai jamais. Moi, je suis toujours dans le dessin. C'est mon.
Et même dans les sculptures, on sent cette ligne, cet amour de la ligne. Hein.
Oui.
Et ben. Au sens de Ingres presque.
Ah ben
et
merci.
De tant d'autres. Mais une ligne. Une douceur, et voilà, c'est la ligne, le plaisir de la ligne, quoi.
Bah complètement, mais en fait, c'est ça, hein, c'est depuis le début. En fait, moi, mon père, il est dessinateur, mm-hmm. et il avait des beaux outils, il avait des rotrings. Hein, donc, une ligne de rotring bien noire, comme, je sais pas, comme un dessin d'Hugo Pratt sur un papier bien blanc, mm-hmm. et ben moi, ça a commencé comme ça. Et cette émotion esthétique, je l'avais déjà à mes 5-6 ans, quoi.
C'est très freudien tout ça.
On a évoqué les parents.
Avec des beaux outils. Très
ouais, je suis désolée, je me suis entendue moi-même, c'est dégueulasse.
Non, mais c'est splendide.
Non, mais si vous aimez bien les lapsus, j'en fais plein.
Un lapsus, vous avez grandi là-dedans.
Ah, c'est pas loin du lapsus.
Vous venez d'un milieu artistique.
Des outils.
On réussit quelque chose de magnifique. On n'a même pas de divan.
Moi, je vous laissais gratuitement les trucs.
Il était dessinateur en quoi ?
Mon père, c'était par passion. Quoi.
Ah, oui,
il était graphiste aussi.
C'est graphiste. Son métier quand même.
Ah, mais lui, ouais.
D'accord. Je pense c'est important.
C'était sa passion. Son métier, c'était pas artistique dans le même sens.
Mm-hmm. Plus art appliqué, graphiste.
Voilà. Infographie, télé.
Etc.
Oui.
D'accord.
Et pourrait-il, lui ou alors votre mère, pourrait-il sortir des premières œuvres que vous auriez réalisées à l'âge de quoi ? 3
mais
ans,
oui.
4 ans, 5 ans.
Mais complètement.
Et alors c'est assez figuratif, non ?
J'ai fait des trucs pas si mal. Hein. C'est rigolo parce qu'il y a une chance sur deux que mon père il m'écoute actuellement, donc il doit rigoler incroyable.
Il pourra vous réécouter. L'émission est enregistrée. Ah, podcastable ensuite, elle sera en ligne sur le blog.
Donc écoutable jusqu'à l'infini, à l'éternité, comme on dit sur une chaîne concurrente.
Oui, c'est ça. Et dans votre père, oui, il a conservé.
Il a conservé ma mère aussi. Et il y a des travaux que j'ai même retravaillés. Il y avait un de ces petits travaux avec ce joli rotring qu'on m'avait prêté, qui faisait une ligne bien large, là, qu'on prête à un enfant plus qu'à un
enfant. Je suis totalement néophyte. C'est quoi ? C'est un feutre ?
C'est vrai, je ne m'explique pas.
Ou les rotrings,
c'est ça permet d'avoir un beau noir d'encre, parce que c'est des cartouches à encre de Chine dedans. Voilà. Mais c'est un stylo rechargeable.
Ah d'accord.
Avec deux pointes de différentes tailles.
Et il y a autant d'épaisseur que de calibre. Comme...
J'utilise les auteurs de BD, etc.
Ouais, c'est un peu du matériel professionnel et j'ai eu la chance qu'ils me les montrent dès le début. Quoi. Mmh. Et donc c'est comme ça que j'ai eu une super boîte d'aquarelle. Je devais avoir 8 ans. Je n'ai encore, hein, c'est toujours la même.
Ah oui, c'est vrai que l'aquarelle c'est cher à l'achat, mais ça peut durer assez longtemps.
Exactement.
Et alors vous avez...
Renouvelle les petits cubes.
Vous avez retravaillé une œuvre, donc.
Et donc oui, pour revenir, ouais, elle était vraiment jolie. Je l'avais fait sur un post-it, un format carré. Un joli dessin très très noir. Ça ressemblait à un petit personnage masqué en noir, avec des cotillons qui tombaient derrière et un visage masqué comme ça, avec des perles peut-être. Et c'était un dessin très fort quand même, et assez gai, mais tout en noir. Et je l'ai refait en gravure, en fait. Je l'ai refait en gravure sur lino, quand j'avais 20 ans. Donc, un peu bouclé la boucle. Mmh. Donc, c'était sympa.
Et la figure maternelle, est-elle aussi versée dans les arts ou moins ?
Ah oui, ma mère, elle lit tout le temps, et puis c'est la cinéphilie. Mmh. Ah oui, ouais. J'ai essayé de mélanger les deux. Les uns le livre, l'autre le dessin. Et bien, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire des livres illustrés.
as-tu une question, Isa ?
Pour la jeunesse, aussi, c'est toujours très dynamique.
Sur les parents,
l'édition.
Les frères ou sœurs de
Non, pas forcément sur ça. Moi, je voulais plutôt revenir sur la savonnette. Vous avez dit une fois que vous préfériez travailler avec des savonnettes issues de grandes distributions. Pourquoi ?
Ouais.
Qu'est-ce que...
À votre avis ?
Plus facile à accéder, enfin du moins on les obtient assez facilement, non ?
Ouais, c'est peut-être plus pour une histoire de consommation, je pense.
Ouais, c'est la conservation. En fait, c'est ça, et donc je crois qu'on va peut-être parler du salon d'Alep après, c'est ça, ça vient ?
Oh, c'était juste pour... J'aurais pu lire j'y pense maintenant, je ne l'ai pas amené, il y a Oui, bah Francis, encore un Francis, tiens. Francis Ponge. Francis Ponge qui a écrit un magnifique texte sur le savon dans Le Parti pris des choses, que j'aurais dû
amener. Ouais.
Ça aurait été très bien d'en parler, mais j'ai une petite chronique là dans un ancien Charlie de Marie Dariussec. Où...
Oui,
chronique au savon d'Alep. On lira un petit extrait.
Gérald, on se garde quand même cette question qui est la bascule, hein. Enfin disons bascule, le être passé, enfin vous continuez à dessiner, ça vous l'avez dit, mais il y a quand même maintenant une œuvre plus importante qui est faite, qui est réalisée sur savon.
Oui,
mais...
plus visible.
Peu plus visible. Gérald,
c'est un travail de dessin, de toute façon, même quand elle passe, on va dire, au bas-relief, parce qu'on pourrait considérer ça comme des bas-reliefs.
Tout à fait.
Dans la tradition du camé antique.
Ouais, ouais.
Et comme si le savon était une sorte de marbre de substitution, on va dire, ou de l'ambre de substitution.
Oui.
Il y a un peu de ça.
Oui, mais en même temps, je me rends compte que si j'avais voulu bosser avec des matériaux qui étaient vraiment du marbre, quoi, je l'aurais peut-être fait.
Oui. Donc c'est un choix, évidemment.
Ouais, il y a une espèce de de flirt de l'un à l'autre constant, quoi. Et je pense que ça crée quelque chose.
Oui, c'est quelque chose de... Et puis il y a peut-être des brillances. Là, j'ai un magnifique carton, d'ailleurs. La galerie fait des très beaux cartons.
Oui.
C'est dur d'écrire les images à la radio, comme d'habitude, mais on mettra des visuels sur le
blog. Je peux essayer.
J'ai mis une vidéo de, à l'époque où un Secret Savonnette a été à la demeure du chaos.
Oui,
c'était une exposition réalisée, je crois, par Rodolphe Besset, me semble-t-il.
Oui.
Et la vidéo est assez. Enfin, elle commence par justement différentes images qui sont montrées. Et puis après, on vous voit longuement parler.
Oui, oui.
J'ai indiqué ça sur le blog, hein, forcément. On ne peut être que jaloux, nous, à la radio.
Encore plus, parce que la spécificité, c'est quand
même. Le matériau.
De la savonnette, ça a une odeur. Et puis on peut faire jouer sur la lumière aussi, non?
Oui, oui, un peu comme un matériau de sculpture qui aurait des propriétés analogues, donc visuellement, marbre, ivoire. On peut penser des fois aussi au travail sur le verre, du cristal dépoli, des choses comme ça.
Ouais.
Bah, en fait, oui, il y a ce côté luisant.
Mm-hmm. Très luisant.
Luisant, légèrement translucide, qui est incomparable, en fait. Mm-hmm. Je trouve, de temps en temps, je revois l'aspect que ça, et je me dis, mais oui, mais j'ai pas envie de bosser sur une autre matière, même si ça serait peut-être, ça rassurerait des gens pour,
oui,
la,
pour
pérennité.
La pérennité, la noblesse du matériau.
Je pense que si mon boulot, les gens, ils ont envie d'en parler, etc., c'est clairement parce que c'est atypique.
C'est aussi ce qui en fait l'originalité, l'intérêt.
Il y a ce côté un peu poignant, tu dis, waouh, c'est joli, oh, mais ça doit, en plus, oui, mais ça sent, c'est parfumé, oui, mais et si c'était si fragile aussi que je l'imagine, et là, les gens, ils partent dans un truc incroyable de projection, d'imagination, de sensibilité. Et je pourrais pas obtenir ça si j'avais un petit bloc de marbre. Pas de la même façon, ça serait beaucoup plus classique.
Que dit Marie Dariussec dans le Charlie Hebdo de la semaine dernière sur savon d'Alep?
Je vais pas tout lire, parce que ça prend trop de temps.
Il y a quelques éléments intéressants.
Bon, bah, c'est sa rubrique papier buvard, c'est le Charlie Pat d'aujourd'hui, la semaine dernière. Chronique au savon d'Alep. Il me reste un petit bout de savon d'Alep. Il sent le laurier, l'huile d'olive, et quelque chose de sombre comme de la cendre. Je ne fais pas de métaphore. Ce savon, probablement le meilleur et le plus ancien du monde, sent objectivement la cendre. En décembre 2005, à Alep, j'en avais acheté un petit stock. Il se conserve très bien. Il suffit de couper le cube en deux à l'intérieur. Et l'intérieur est d'un vert tendre, doux et frais. Je regarde fondre mon dernier bout de savon. Est-ce que je fais des métaphores? Est-ce que je m'en lave les mains? J'écris et Alep brûle. Et il n'y a plus d'eau potable. Les Russes et Bachar utilisent des bombes non conventionnelles, puisqu'il y a des bombes qui le sont, des bombes au phosphore et des bombes à vide. Ces bombes produisent une onde de choc, une boule de feu, une dépression de l'air massive. Que peut un corps d'enfant sous les bombes à vide? Les journaux nous ménagent, on voit des photos d'enfants blessés, déjà insoutenables, mais on peut se dire, il va s'en sortir, et ça fait métaphore. Métaphore pour la ville et pour tous les enfants, mais non, les enfants sont déchirés et brûlés par des bombes, et Alep ne s'en sortira pas. Bon, ça continue, etc. Alep est une très belle ville. Quand j'y suis allé, il y avait déjà beaucoup de barbus, etc. Alep sera reconstruite sûrement. Guernica a été reconstruite. Dresde aussi, Hiroshima aussi. Pas du tout à l'identique. Et Nagasaki a tellement changé, entre guillemets, que la nouvelle ville n'inclut aucune ruine. Il ne reste rien de l'absence de la ville. À Guernica, c'est chez moi, sur les immeubles, il y a écrit 1942-1944. Des dates de reconstruction déroutantes au moment où Brême, Cologne, Royan étaient rayés de la carte de l'Europe. Ils ont raison, nos ambassadeurs à l'ONU, de dire qu'Alep ne doit pas être le Guernica de 2016. Mais qu'à l'impuissance en nous est ainsi décrite. Guernica a été écrasée comme une expérience. Les nazis ont fait le boulot pour Franco et pour voir. D'abord un mitraillage depuis le ciel, puis des bombes explosives en tapis, puis des bombes incendiaires. C'était le premier bombardement de civils de l'histoire du monde. Nous ne sommes pas en 1937, mais 2016, sans mauvais. Il y aura des artistes pour tenter d'être les Picasso d'Alep, c'est nécessaire. Mais c'est toujours après, c'est toujours l'élégie, la dénonciation, au mieux c'est pendant. La production de savon a tenu un moment à Alep. Et puis aux dernières nouvelles, sur la BBC en juillet dernier, Nabil Andoura, le dernier grand savonnier, a quitté la ville.
Hey, c'est quand même super rude. Est-ce qu'on fait...
C'est rude parce que là, non, c'est non, un mais... univers totalement à l'opposé de celui de Marjolaine Larrivé. Mais comme ça parlait de savant, je me suis dit, on pourra revenir à la thématique et à ses sources d'inspiration.
Est-ce qu'on pourrait tous s'accorder un petit moment où justement on retrouve un peu...
Les chansons de Billy Tiff.
Ben voilà, écoutons quelque chose parce que... Mince, tu jettes ça après, t'as tout à fait raison, c'est quand même l'actualité là. Enfin voilà, moi à chaque fois j'indique la date.
On pourrait poser la question, est-ce qu'il lui reste un petit bout de savon d'Alep qu'elle va peut-être retravailler?
Certes,
j'en ai déjà sculpté un, ouais. Je l'ai toujours.
Ah. Allez, après Francis en début d'émission, et puis maintenant ton passage sur la Syrie. Donc, c'est quand même bien, quoi. Un peu de gravité.
Thanatos, aujourd'hui, la thématique. Voilà,
non, voilà, mais c'est vrai ça. Que non, je pense, quoi. Les savons d'Alep, c'est l'archéologie du savon. C'est un truc de l'humanité, voilà. C'est l'histoire du... C'est pas rien. Vous avez entendu toutes les métaphores que vous avez faites à propos du savon, on s'en lave les mains et tout, c'est absolument pas anodin.
C'est Marie Darieux qui les a faites, mais il y en a beaucoup, je pense.
Et c'est très riche. Hein.
Ouais. La thématique du savon, c'est dommage qu'on n'ait pas lu le texte de Francis Ponge.
Non, mais on est en plein dedans quand même.
Que
là.
Secret de savonnette, en fait, pourrait partir tout de suite sur encore sur de beaux propos à tenir. Mais accordons-vous également, accordons tout le monde.
Allez, tout
le monde.
Pause.
Voilà, une pause musicale.
Avec magnifique Cathy, la compile The Many Voices of Cathy Berberian, 1928-1983, que j'adore passer à l'émission. Et on va écouter des chansons de Billy Tiss, texte de Pierre Louis et musique de Claude Debussy. Chansons érotiques, bien sûr.
Gérald, on reprend une seconde et puis après on remettra éventuellement ces chansons de Billy Tiss.
On a parlé de la technique, mais on n'a pas encore parlé des sources d'inspiration.
Mi-temps d'émission.
On va dire de la thématique, c'est un peu aberrant de...
Nous sommes toujours avec
c'est la facilité du discours de dissocier le fond de la forme et l'inspiration thématique ou figurative. C'est quand même de l'art figuratif, hein, ça on peut le dire, même très figuratif. Donc on va dissocier le matériau, alors que justement... Si ça fonctionne et si l'œuvre de Marjolaine ici présente, l'arrivée secrète de savonnette, est intéressante, c'est parce qu'il y a un lien très fort et très puissant entre la forme et le fond, et entre le matériau choisi et ce qu'il en sort, et comment elle arrive à le transfigurer dans des formes, qu'on va dire, basées sur la ligne érotique et l'érotisme de la ligne.
Ouais, complètement.
Mais de la surface.
Je pense que de toute façon, la sculpture dans le sens classique du terme, parce que j'ai quand même un style assez classique, c'est vite super sensuel. Mmh. N'importe quelle forme, avec ce blanc comme ça qu'on retrouve, c'est de la sensualité à l'état pur. Du coup, bon.
Y compris les antiques,
oui. Oui, complètement.
Okay. Même surtout.
Mmh, oui, les antiques ou les maniéristes du 19e ou les mecs du 18e, c'est vite. Mmh. Le sujet est érotique avant même de l'avoir souhaité. Ça respire la sensualité. Je ne sais pas à quoi ça tient. La statuaire classique a ce côté un peu mortifère, éternel, très froid, fascinant et complètement érotique, mais au sens
sachant
froid.
Qu'elle était polychrome. Hein. Les camées d'origine étaient blancs, enfin couleur marbre ou ivoire. Ouais. Mais les grandes sculptures
donc c'est vrai,
étaient polychromes.
Si tu te mets à imaginer le Parthénon avec plein de couleurs partout, voilà. Pour moi, ça me plaît moins. Mais j'aimerais vraiment bien visualiser comment c'était. Ça devient intéressant. Mais j'aimerais bien vous décrire justement la sculpture qui a été utilisée sur le flyer. Parce qu'on parle d'érotisme. Mais justement, est-ce qu'on peut voir un peu... Alors bon, ce joli flyer dont vous parlez, en fait, c'est une des dernières sculptures que j'ai faites. Donc, qui est présente sur les murs de l'expo. Alors, on voit... sur un fond d'herbe comme ça, on voit deux personnages avec des têtes de gazelle, avec des cornes, avec des anneaux, et qui se joignent les mains. Elles sont debout l'une face à l'autre, elles sont nues, elles ont une petite queue sur les fesses, mais elles ont un corps de femme, et cette tête de gazelle avec les cornes qui sont recouvertes d'un peu de feuilles d'or. Donc pour l'occasion... je me suis essayée à ça, c'est pas évident, mais bon, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Et donc voilà, en fait, on n'est pas dans quelque chose de concrètement érotique. On n'est pas du tout dans le porno, mais là, qu'est-ce qu'on a, deux femmes qui se joignent les mains, c'est tout. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous avez parlé de l'érotisme, même cette image faisait partie de ça, alors que finalement, qu'est-ce qui est érotique dans cette image?
Elle est aussi symbolique et... Oui, ce qui est érotique, on va dire que c'est la nudité, ça peut évoquer une scène saphique, c'est des créatures, on va dire, androgynes. Parce que moi, le fait que ça soit des gazelles, moi j'ai vu des cerfs plus que des gazelles, bon, je trouve que c'est des corps de femmes, mais c'est des chimères, de toute façon. Et ça évoque plutôt le cerf qui brame. Hein. Enfin, les cerfs et les biches, quoi. Hein. Donc ça, c'est quand même un thème assez érotique. Le brame du cerf.
En fait, je suis d'accord.
Qu'est-ce qui est érotique ? Oui, si. L'herbe tournoie, elle ressemble plus à des... Comment on appelle ça ? Des régimes de bananes qu'il y a de l'herbe, d'ailleurs, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Là aussi, je trouve ça érotique.
Ah ben, je suis contente, alors.
Et est-ce que c'est pas un érotisme qui est un petit peu fantasmé ? C'est peut-être plus dans notre tête qu'on va voir ça comme étant érotique que,
c'est très intéressant,
que sur voilà, l'image.
Est-ce qu'on le projette ?
Enfin, voilà, au niveau de l'image, c'est pas forcément... Ça apparaît pas flagrant que ça soit vraiment quelque chose d'érotique.
Je pense que c'est de ça qu'il s'agit, c'est que nous, on se met à voyager et à voir quelque chose d'érotique alors que ça l'est pas au sens propre. Et ça me paraît vachement intéressant.
Parce que si moi, quand je vois l'image, ça me paraît pas plus érotique qu'autre chose, en fait.
Oui, exactement.
Mais on projette. Vous parliez tout à l'heure de projection qu'on se fait avec les savonnettes, concernant l'odeur.
C'est peut-être ça, le matériau qui intervient aussi.
Non, je pense que... Oui, alors tout à fait, mais je pense que c'est aussi... Je sais pas, c'est quelque chose de la statuaire classique qui est là et qui a cette propriété là. Et je vais pas dire je le réactive parce que ça fait vachement pompant, mais pompeux, oula, justement.
Prétentieux. Hein,
mais, mais voilà, il y a peut-être juste j'utilise un des ressorts de la statuaire classique qui a cet effet là et qui me paraît moi absolument fascinant, quoi. Et bon, oui, je pense que moi, je projette des choses, donc je vous le transmets et vous le sentez. Et c'est là que ça devient franchement intéressant, quoi.
Vous avez des rencontres avec vos... comment les appeler ? Avec les visiteurs des galeries, des expositions, enfin, avec vos spectateurs, les clients,
club,
éventuellement.
Il y a un fan club.
Ah bon ?
Une page Facebook.
Paris 11e.
Donc oui, vous avez un peu de contact, d'échange, ça se produit
ça
lors du vernissage, par exemple, c'est ça ?
Oui, c'est surtout pendant les vernissages, et c'est particulier parce que les gens peuvent des fois être émus, dans le meilleur des cas, hein. Quand ils trouvent ça moche, ils ne me le disent pas, de toute façon, en général, s'il y a des trucs, des critiques, ça me sera rarement dit dans ces termes-là. Donc moi, j'ai toujours les super éloges, mais en général, c'est... des fois, les gens disent... j'aime beaucoup ce que vous faites. Et en fait, les gens, ils se livrent en disant ça. Il faut quand même aller vers quelqu'un que tu connais pas, qui a fait une création, t'es peut-être pas là-dedans, et tu vas lui livrer quelque chose de ton émotion en disant, oh là, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et ce qui est terrible, c'est que moi, j'entends rien là-dedans.
En fait, que...
Et ce que je veux dire, c'est que quand on dit ça, pour moi, c'est tellement abstrait, je sais pas ce que ça veut dire pour eux. Donc c'est là où les mots suffisent plus, quoi.
Mais d'ailleurs, quand vous faites des expositions un peu ailleurs, que ce soit à Rome ou à Amsterdam, est-ce que vous rencontrez des confrères à vous? Est-ce que vous échangez avec eux parfois sur vos expos?
Oui, un petit peu, mais honnêtement, je ne me reconnais pas tout à fait dans l'idée de « j'expose à Amsterdam ». En fait, oui, ça m'est arrivé une fois, j'ai posé 2 sculptures, enfin 4, et j'étais là au vernissage, mais c'est assez rare dans mon parcours. Voilà. Par exemple, la pièce qui est... Enfin, à Rome, c'est comme ça que ça s'est passé aussi, c'est vrai. Donc j'ai rencontré des gens, mais on ne peut pas dire que je suis une artiste qui... Enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment cette dimension internationale à ce point-là, je ne pense pas. Mais ouais, ça m'est arrivé d'échanger un petit peu, mais aussi des fois juste par Facebook en fait. Ça, c'est vachement intéressant. J'ai rencontré quelqu'un qui, lui, il est restaurateur de bronze. Et donc, il va tordre, refondre, ressouder et redorer. Et on a échangé parce qu'en fait, lui, maintenant, il est aussi dans la création en parallèle. Et il fait des pièces incroyables, avec cette esthétique aussi néoclassique, on peut dire. Mmh. Et là, c'est passionnant. Et finalement, Facebook, qui n'est pas du tout quelque chose de dédié à ça a priori, sert vraiment d'échange.
Et est-ce que ça vous arrive parfois que lorsque vous échangez justement, certains de vos confrères ne voient pas du tout la même chose que vous dans un
de mes travaux,
ouais, dans un de vos travaux, que vraiment la personne voit quelque chose de vraiment totalement différent de ce que vous.
Bah c'est rare, c'est franchement rare. En général, je crois que mon truc il se transmet bien. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est que des fois les gens ils voient des choses que j'y ai mises. Et que j'assume, mais que je ne savais pas que je les avais mises. Et que ça rentre vraiment dans mes influences aussi.
Vous disiez en début d'émission que vous auriez peut-être apprécié de discuter avec c'est Béatrice, c'est ça, je crois, la co-exposante. Vous pouvez, comme ça, plus ou moins, enfin je ne sais pas, c'est compliqué comme exercice, mais de deviner des thèmes que vous auriez évoqués pendant l'émission, ça aurait pu être quoi
Si Béatrice parlait, Béatrice Elzo, non, je n'aurais pas cette prétention-là.
Qu'est-ce que vous auriez pu
Pour décrire un petit peu son travail sur Béatrice, c'est ça. Déjà, ça, c'était un travail très différent du mien, mais qui allait bien parce que il y avait une finesse dans le dessin et dans la taille des œuvres où on se retrouvait quand même. Elle, c'est un travail un peu hors les normes et qui peut un peu rappeler l'art brut sans qu'on soit du tout dans
présence.
Voilà, art singulier, ça me paraît très bien. Et elle fait des dessins très fins qu'elle va aussi parfois découper et mettre en scène dans des petites boîtes avec différents niveaux de profondeur dans le dessin. Et donc un petit peu d'intervention de couleur et un petit peu de broderie de façon très fine. Donc on est dans quelque chose d'assez spontané, très raffiné.
Un univers grotesque et monstrueux, peut-être à la Topor ou des gens comme ça, Bosch.
Un peu, oui.
Mais dans la facture, c'est très précieux aussi. C'est précieux. C'est un point commun, maniériste, précieux.
Et léger aussi.
Et léger.
Il y a une spontanéité en même temps. Et donc, elle, ça parle de féminité. Je pense que c'est très personnel. Il y a souvent une présence d'un corps de femme au milieu qui est relié à plein de choses. Avec le ventre.
Vous n'avez pas fait une origine du monde aussi, en savon?
Si.
Courbet, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Ouais, on peut dire
avec
ça.
Avec la lumière
ouais.
qui passe à travers, en plus.
Oui, il y avait beaucoup de transparence. Alors là, c'était quelque chose.
On revient à l'érotisme. Là, vous évoquez que Béatrice a un traitement, travail de le corps féminin. Mais moi, c'est pas tant que j'insiste.
Pas que féminin, d'ailleurs.
Ma question, c'était de quoi auriez-vous pu parler? Vous auriez trouvé forcément, des points de convergence, ou au contraire, non, c'est plutôt des univers différents et des choses qui sont... De toute façon, le support, pour le coup, est différent. C'est votre chasse gardée, la savonnette.
Il me semble que on puisse toutes les deux notre univers en nous-mêmes, en fait. Ça ne sera pas au niveau de l'érotisme, mais au niveau de vraiment l'intériorité, ouais.
C'est à la fois très différent et très complémentaire, en plus. Dans le cadre de cette exposition.
Bilitis, oui. On refait donc une courte pause. C'est, courte, oui. C'est une tout toujours Berbarian. C'est Cathy,
voilà,
c'est ça?
Et Debussy.
Est au chant. Et puis on reprend ensuite.
C'est
avec,
la flûte de Pan ou alors la chevelure ou le tombeau des naïades? Donc la chevelure ou le tombeau des naïades?
Eh bien, écoutons, nous allons voir et puis nous poursuivrons ensuite sur peut-être une autre description. C'est intéressant cet exercice. Hein. Nous verrons si Secrète Savonnette peut.
Et puis on mettra ça en ligne, hein, je crois.
Ah, bah si nous avons les droits, nous le ferons volontiers.
Ah, bah je crois que mon photographe serait OK. Hein,
ah, bah très bien.
Pour qu'on diffuse.
Chouette. Un dernier quart d'heure sur Radio Canu dans Spectaculaire avec Secrète Savonnette, Marjolaine Larrivé, artiste exposée actuellement en galerie d'Étinger.
D'Étinger Meilleur. Jusqu'au 29 octobre 2016.
Bah, c'est très bien, ça fait.
Place
alors on
n'a
pas donné les horaires d'ouverture, on va en profiter. Ouvert du mardi au samedi de 15h à 19h30 et le matin sur rendez-vous. Du mardi au samedi, hein, pas le dimanche et le lundi. De 15h à 19h30 et le matin sur rendez-vous. Téléphone 0472 41 07 80, 0472 41 07 80, 4 Place Gailleton, juste après le Sofitel.
Oui. Ah,
pas faire de publicité. Et il y a une belle galerie à côté aussi qui expose des artistes du tissu. Donc vous pouvez voir deux belles galeries sur cette Place Gailleton.
Il y en a trois, il y a le Lutrin aussi.
Oui, aussi il y a le Lutrin, oui. Ça fait trois galeries dans le quartier, ça fait presque un petit quartier de galeries.
Le Lutrin qui est avec le galeriste le plus ancien de Lyon.
Voilà, oui. Donc des bas-reliefs sculptés entre autres sur savon, quelques aquarelles et quelques gravures. Donc des bas-reliefs, le mot est là, hein, le mot est néoclassique, le mot vient de l'Antiquité, des sarcophages romains et antiques. Mais il y a quand même une dimension, on en parlait hors antenne, qui évoque le maniérisme, qui évoque la préciosité, qui évoque peut-être l'école de Fontainebleau. Mm. Et puis on a parlé de Diane Chasseresse, parce que c'est de...
Ouais, c'est pour ça que je pense à l'école de Fontainebleau.
Ouais.
C'est que la sculpture que j'étais en train de vous décrire avant la pièce, le moment de musique, ben, c'est comme ça, c'est une femme qui se transforme en gazelle, donc on est vite dans le motif de Diane, avec Diane et ses... qui chasse, mmh. Diane et Actéon aussi qui devient un cerf, et donc ben, évidemment là c'est une métaphore parce que tout est dans une seule image, mais pour moi je sais pas, je pensais à ça en le faisant, une espèce de mystère insondable dans Diane. Donc quand... Peut-être que cette pièce de sculpture a un peu d'érotisme latent, ou même beaucoup, mais pour moi, il y a un truc avec quelque chose d'intouchable. Mmh. Elle se touche du bout des doigts, mais il me semble que ce n'est pas forcément du saphisme, dans le sens où...
Oui.
Mais c'est plutôt une tête de foie la même. Peut-être que c'est des jumelles ou un miroir.
Ça fait penser au fameux tableau de celle qui pince le téton de l'autre, là, j'ai oublié.
Ah, c'est génial, hein, ça me fait plaisir, mais ça, je sais plus.
Le fameux chef-d'œuvre de l'école de Fontainebleau, qui est plutôt un signe de fertilité, il y a un bébé aussi derrière, etc. Enfin bref.
Vous pensez? Parce que c'est super mystérieux, la symbolique sur celui-là.
Oui, c'est un tableau assez mystérieux.
Avec la favorite du roi, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle n'est pas là?
C'est ça.
Diane de Poitiers.
Donc c'est cet univers-là, mais quand votre sous-inspiration, vous ne prenez jamais des motifs vraiment plastiques, vous partez plutôt de mythes, de...
Si, de là, je pensais Art Déco, en fait, en commençant
d'accord.
celle-ci.
Et est-ce que vous appropriez, vous citez de vrais motifs, des vraies lignes, des vraies formes, dont des arts divers et variés, art mineur, art majeur
Je pense que c'est toujours un peu là.
Oui, c'est inconscient.
Il y a tout qui est là, qui se mélange et qui agit. Donc là, si on ressent l'école de Fontainebleau, moi, j'en suis fort aise. Alors là, génial, incroyable. Bah voilà, c'était ce que je transmettais, moi. Donc oui, c'est là, mais ça se voit pas, et ça se voit, c'est super quand même.
Mm-hmm. C'est en filigrane, on va dire.
Génial.
Isa, je crois que tu as des informations sur Secret de Savonnette. Il y a d'autres facettes de sa personnalité. On pourrait encore brosser son portrait en évoquant autre chose. Je t'en prie, tu avais une question pour notre invité.
En fait, moi, je voulais évoquer avec vous plutôt une activité que vous faites parallèlement. En fait, c'est que vous donnez des cours, je crois.
Oui.
Ou donnez des cours avec plusieurs enseignants. Vous faites aussi
ouais.
des stages
oui.
à l'atelier du terreau.
Ouais.
Je crois que ça, les stages recommencent à partir du mois d'octobre, là, si je ne me trompe pas, octobre-novembre.
Ouais, ça va reprendre.
Ouais. Incessamment.
J'aimerais bien que ça prenne vite.
Ouais.
Non, ouais, on fait des journaux de stage tous les un samedi en entier. Enfin, moi, mon stage, c'est le samedi, et je donne des cours de modèles vivants aux ateliers terreau, donc, qui sont rue Sainte-Marie des Terreaux, donc pas très loin de Radio Canu. Hein. Et en fait, on bénéficie d'un local vachement adapté. On a plusieurs modèles selon les besoins.
Mmh.
Et en plus, les élèves, ils bénéficient de tout le matériel. Ils n'ont pas besoin d'amener quoi que ce soit.
Ouais, et il y a énormément de professeurs, je crois, avec vous. Enfin, y a énormément d'enseignants, il y a énormément de gens.
Une grosse équipe.
Ouais, vous êtes très très nombreux.
Ouais, il y a des profs de sculpture, il y a des cours de modèles vivants d'après-modèles en sculpture.
Mmh.
Il y a des cours pour les jeunes aussi, des cours mais en fait il y a des cours de technique de dessin pur, des cours de dessin rapide, des cours où on a des poses très longues avec un modèle, des cours de modelage, des cours de mosaïque, il y a même des cours de théâtre, des cours de dessin manga, et ça va me revenir, mais
c'est... Ouais, il y a même des cours de création de chansons.
Textile.
Ah oui, ça c'est nouveau, ça a l'air pas mal.
Ouais. J'ai même vu des cours de création de chansons.
C'est une école privée, une école libre ou c'est quoi?
Ben en fait, c'est pas une asso, c'est comme une entreprise,
d'accord.
Mais ça fait... Ils ont pignon sur rue, les ateliers hétéros, ça fait un bout de temps que ça existe.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que ça vaut le coup d'aller voir, parce que c'est... Et puis en plus, les enseignements sont quand même... ils sont souvent des super enseignants, et en plus, sont des super artistes. Par exemple, y a des gens, j'ai mis le temps à faire le lien, en fait, je connaissais leur travail.
Mm-hmm.
Y a un prof de sculpture, Paul Marandon, son travail, c'est vachement bien aussi. Et, moi, je travaille aussi avec... Bah, justement, j'encadrais une de ses œuvres ce matin. Agnès Montmailleur, et qui elle, c'est une artiste, mais elle a des super super pédagogie, quoi. J'ai encore des gens qui m'en reparlent de, je prenais des cours avec elle il y a 2 ans, là, ça me manque. Mm-hmm. Alors là, tu te dis, tu te rends compte.
Le public, c'est des jeunes, forcément, il y a des limites d'âge ou non?
C'est où? Non, c'est accessible à tout le monde, je crois.
Oui, selon l'atelier, que... mais en général, c'est des gens qui travaillent et donc c'est plutôt mm-hmm. le soir.
D'accord.
Où on aura des ados aussi, puis de plus en plus, on aura aussi des publics d'entreprise ou des gens qui préparent des concours d'école, peut-être. Parce que ça peut être bien aussi.
Mmh. Et donc, vous transmettez, ça fonctionne comment? Vous êtes enseignante?
Oui, je suis enseignante, au
donc,
sens classique du terme.
Vivant, autour de la ligne, du dessin rapide?
Oui, moi, c'est dessin rapide avec un modèle vivant, ouais. Donc, on bosse avec différents modèles, et puis j'organise les poses comme ça. Le modèle aussi, il amène sa personnalité, mmh. sa sensibilité. Et puis, on s'adapte aussi au niveau des gens qui viennent dessiner, quoi. Alors des fois on a des niveaux très différents, quelqu'un qui arrive en milieu d'année, mais c'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est franchement intéressant.
Oui, ça. Est-ce que ça peut en partie éventuellement nourrir votre travail? Est-ce que ça vous inspire? Ça vous donne des
autre
idées
que pécuniairement, des suggestions aussi, des choses au niveau
ça m'apporte au niveau tout azimut, au niveau de ma création. Il n'y a pas de lien non. direct, si ce n'est que je pense que si je vais bien, c'est peut-être que je fais beaucoup. Des choses voilà, qui m'enrichissent. Mmh. Et donc, si je vais bien. Voilà.
Et en termes de charge de travail, il y a à peu près combien de cours dans une semaine?
Pour moi, moi, je ne donne pas des cours seulement aux ateliers Théo. Mmh. Donc, ça dépend des années. L'année dernière, je donnais 3 cours par semaine dans une autre structure. Donc, comme il fallait que je prépare mes cours en amont, ça me prenait énormément de temps.
Vous donniez vos cours où, ailleurs que là-bas?
Il y a une école post-bac à Villeurbanne.
Ah, oh, d'accord.
Et donc là, mes élèves, ils sont 18-20 et ils sortent du bac ou d'une formation.
Oui, c'est bien, la pédagogie.
Mais pas antithétique, heureusement, avec la création.
Ouais. Apprendre. Enfin, oui, bref. Le temps tourne. Qu'est-ce que écouterions-nous Vénus et Adonis qui se cherchent l'un l'autre dans cet opéra de John Blow, Vénus et Adonis?
Marjolaine voulait amener un disque de Porcel. Il se trouve que Blow était le maître de... La cour Richard II était le maître de Porcel. C'est quand même le même univers.
Maître et disciple.
Et Vénus et Adonis, quand même. C'est quand même un thème.
Donc écoutons, et puis je pense qu'on va arriver en fin d'émission. On aura encore, peut-être si on va trouver la matière
entre
de
Héros et Thanatos. Nous avons vogué cette émission.
On peut revenir sur cette thématique. John Blow, un enregistrement de René Jacobs qui dirige l'Orchestra of the Age of Enlightenment avec le Clare College et le Capel Choir. Les solistes, Rosemary Joshua, Gerald Finley et Robin Blaze.
On met la piste 3, peut-être pas l'ouverture.
Je suis allé chercher le début de l'acte 1. Je suis allé chercher un passage où ils s'interpellent l'un l'autre. Vénus, Adonis. Voilà. Et puis ça continue.
Tu peux dire le texte si tu veux.
Je retrouve après. Et je lis tout ça une fois qu'on aura écouté.
My love, youth shall find.
un opéra de John Blow. Et à l'instant, Gérald, tu me demandais ce qu'il se chantait. Donc c'était Vénus Adonis qui était, que nous écoutions. Et ils se lançaient l'un l'autre, mais leur prénom, Vénus Adonis. Vénus, quand pourrais-je goûter de savoureux plaisir sur, et sur ton sein m'étendre? Cherchons dans ce bosquet le coin le plus ombragé et l'amour qui attend. Ne le décevons jamais, jamais. Vénus lui répond, Adonis, comme ta fraîche jeunesse exhale sa beauté et sa sincérité, la reine de l'amour passe avec toi du temps destiné à des plaisirs plus sereins. Adonis reprend, bah, Vénus aura toujours quelque chose de neuf qui forcera les amants à la fidélité. Et Vénus conclut, jouvenceau plein de charme, tu me trouveras toujours tendre, aimant à jamais. Eros, c'est ça? On avait Thanatos en début d'émission, là donc on est à fond dans cet Eros. Toi tu feuillettes, tu l'as retrouvé, l'origine du monde?
Qui s'appelle Regard.
De Secrète Savonnette.
Petite revue d'art, numéro 129, septembre 2015.
Et il y a donc plusieurs œuvres.
Qui viennent nous être offertes.
En plus, il y a plusieurs œuvres de notre invité.
Et voilà.
Oui.
Et par transparence, on retrouve des choses.
Oui, c'est Marie Morel qui est une artiste aussi qui crée cette petite revue,
bien.
Qui est disponible sur abonnement et qui est à la fois confidentielle et à la fois assez connue dans son genre. Hein, la revue. Et donc.
Et Marie Morel aussi d'ailleurs.
Ouais, Marie Morel complètement.
Aussi.
Et que pensez-vous des reproductions, Gérald? Elles sont assez bien.
Elles sont très belles. Et puis
les photos
des questions
sont assez bien faites.
Comment procèdes-tu? La couleur de tes savonnettes a-t-elle une importance? On n'en a pas parlé.
Ah mince,
le parfum non plus. L'odeur
encore,
des savonnettes quand tu travailles est-elle importante?
Oui, non, moyen, ça dépend.
Elle est omniprésente pendant mon travail, mais le parfum ne m'oriente pas dans mes décisions.
Et voilà, ça c'est bien dit.
Le parfum m'imprègne, je le respire, je l'oublie, j'éternue aussi. La poussière de savon monte, c'est mieux que la moutarde. Ça fait des volutes de poussière dans la lumière de ma lampe, puis elle retombe et se colle un peu partout. C'est vrai que ça doit
Gérald,
de rien de salissant,
tu
le savon.
Ouais, tu voulais évoquer, ça c'est très amusant, tu voulais évoquer les formats.
Alors les formats en général sont assez petits.
Ouais, c'est format savon.
Ouais, mais il y a des savons de Marseille, jamais.
Bah c'est pareil, hein. C'est qu'en fait je suis dans la grande distribution pour le savon.
Savon de Marseille est peut-être pas facile à sculpter.
Ben, c'est qu'en fait, plus il y a d'huile végétale dedans,
ouais.
Plus il y a un risque que ça vire. En fait, ça
tourne,
va jaunir.
Ça se crevasse.
Donc moi, je vais dans les savons où
plein de conservateurs,
il y a plein de conservateurs, exactement. Et ouais, parce que quand même, et ça marche, hein, ils tiennent bien.
Ah bah forcément. Non, moi j'ironisais le soir du vernissage, je disais si j'étais émir de je ne sais quel, justement émirat d'Arabie Unie, au lieu de me faire une baignoire, ça serait le grand luxe, ça serait terrible, mais au lieu de me faire une baignoire avec des robinetteries en or ou en diamant, etc., je m'achèterais la totalité de l'expo de Marjolaine Arrivée d'Étinger et je me savonnerais avec.
Voilà.
Ça, c'est le fantasme. Ça serait un peu une destruction.
Ah, mais voilà,
c'est terrible.
Hein.
Ça serait une performance.
Ouais. C'est terrible.
Ça serait terrible si quelqu'un faisait
pourquoi
ça.
Pourquoi est-ce qu'il peut aimer les œuvres en même temps qu'on les détruit?
Ouais. Hein, on peut. Une performance est arrivée dans une galerie.
C'est arrivé, on a fait une performance avec Cédric Champeval et il lavait les pieds des gens avec une de mes savonnettes sculptées.
Elle joue au pot d'ailleurs.
Et ça, c'était un gros moment.
C'était assez intéressant.
Ça a dû être affreux pour vous.
Ah non, c'était moi qui suis allée vers lui pour lui demander à Cédric.
Ah bon.
Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et il y avait un côté un peu christique dans son travail.
C'était...
On était entre Marie-Madeleine qui prend ses cheveux pour laver les pieds des gens et Jésus. Et c'était très très impressionnant. Et les gens, ils n'en menaient pas large.
Il était en écharpe rouge, il y avait un petit côté Bourenwald aussi.
C'était j'ai adoré, je suis vraiment contente.
Il est 15h auditeur, vous entendez parler à l'instant de Marie-Madeleine et de Jésus. Et non, ce n'est pas le blues des canuts qui commence. D'ailleurs, Pascal n'est pas encore là. Alors on va lui voler quelques minutes pour conclure avec notre invitée Secrète Savonnette. Pourquoi ce terme, cet adjectif de secrète?
C'était un titre qu'on a trouvé pour ma série de savons afin de la présenter dans une galerie à Rome.
Ah voilà,
et c'est venu tout de suite.
Moi, ça m'a évoqué le cabinet secret de Naples.
C'était Saponette Segrete. Ça sonnait bien en italien.
Et puis, c'est le cabinet secret de Naples avec le culte priapique.
Il a raison, Isa.
Il faut que je vois ça.
Isa, il sent une célébrité. Là. Il sent quelque chose. C'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure des expositions d'Amsterdam et de Rome. Ça va. Mais c'est en train de monter, hein, Gérald. C'est en train de monter. Là, bientôt, ce sera aux 20h, au cinéma, partout, des documentaires, des trucs. Déjà, l'émission radio va être podcastée des millions de fois. Ça va être. Incroyable. Marjolaine Larrivée va bientôt arriver tout en haut de l'affiche, au sommet. Non, mais c'est bien. Enfin, dis-moi, et les gens ont plaisir.
Souhaitez-moi d'en vivre déjà.
Oui, ça serait pas mal.
Les gens ont plaisir à venir à l'exposition. Oui, vous voyez des sourires sur les
grand
visages.
Grand succès, beaucoup de monde. Oui.
Bah, c'est léger hein, comme travail. Donc, mais
c'est
pas
léger,
dans le mauvais sens du terme. J'espère
c'est léger. Une savonnette, c'est pas très lourd, c'est ça? Quelques grammes, vous voulez dire?
Je ne réponds pas à ça.
C'est léger en quel sens? C'est léger en quel sens comme travail?
Bah, c'est un travail sur ce qui est doux dans la vie, quoi.
Quand même, il faut le dire.
C'est un travail très féminin qui parle de ce qui est doux, de ce qu'on échange ensemble, de ce qu'on dit au-delà des mots, enfin, de ce qu'on ne dit pas, donc, mais de ce qui se transmet.
C'est forcément féminin comme travail.
Il me semble, non ?
Ouais, c'est vrai qu'il y a une dimension féminine, mais on pense aussi à Bébé Cadom.
Mais c'est très bien qu'on n'en ait pas parlé en premier. Hein, c'est pas...
Ou Camès et mon produit de beauté, c'est toutes ces pubs éternelles.
Ah, mais il y a beaucoup d'implications avec le savon, tout à fait. C'est un peu les vieux meubles qu'on a avec soi, hein, les petites savonnettes.
Hein. C'est vrai.
C'est tout un héritage des objets qui viennent d'une certaine tradition. Ouais.
Il ne s'agit pas de créer l'illusion que la savonnette est autre chose que du savon. Ça, c'est important. Au contraire, et je crois que la boucle sera bouclée, je tiens, dit Marjolaine Larrivé dans ce merveilleux petit catalogue, je tiens à allier la fragilité du savon avec la finesse de ce qui est sculpté. C'est dans cette confrontation, et là j'adore le mot, cette friction. On vient à la friction. Cette douce friction, pourrait-on dire, pour faire un oxymoron, qu'il se passe quelque chose, qui ravit les spectateurs, et on vous invite très vivement à aller voir cette exposition à la galerie d'Étinger Meilleur jusqu'au samedi 29 octobre, du mardi au samedi, entre 15h et 19h30, pour aller voir les secrets de savonnette de Marjolaine Larrivé, ainsi que les magnifiques boîtes à dessins et dessins très singuliers et très forts aussi de Béatrice Elzo.
Ouais.
Puis voilà.
J'y serai vendredi soir, normalement.
Vendredi ?
Ouais.
Après-midi ?
Soir.
Vendredi soir, si vous voulez rencontrer l'artiste, ce vendredi-là ?
Ouais.
Bon, c'est encore mieux. Avec visite guidée de l'artiste en personne.
Fin de l'émission. Allez, 15h03, on a un peu dépassé.
C'est pas grave.
Pascal n'est pas là, donc il ne nous en voudra pas. Ce que je vais faire, c'est que non, pas d'annonce. Ça continue. Jean-Pierre Siméon, que nous avions au téléphone la semaine dernière, continue. Lui, il est l'auteur, mais au TNP, ses pièces Electre et Antigone continuent. D'ailleurs, il y a des intégrales les samedis, samedi dernier et le samedi à venir. Electre et Antigone sont données successivement. Elles sont courtes, les pièces. Elles durent une heure et quart, donc la soirée n'est pas très longue. Et puis sinon, au Célestin, Vera, c'est terminé. Il y a actuellement James Tiré, artiste, je sais pas comment le nommer, artiste circassien. On le connaît parfois par cette descendance. Il est petit-fils, je crois, de Charlie Chaplin. Et puis il y aura encore d'autres choses à venir. Mais actuellement, il y a l'opéra, l'ange de feu. Tu veux y aller, Gérald ?
Ouais.
On le couvre, cet opéra. On essaiera. Prokofiev.
Ah,
ouais.
Ça serait bien ça.
Et puis c'est tout. Si, il y a l'auditorium.
Il y aura des expos de plasticiennes bientôt aussi qu'on fera peut-être venir.
Tu as raison d'évoquer, oui, bon, ça on verra. Je pense à l'auditorium. Il y a également un bon concert cette semaine avec le chef d'orchestre qui va diriger une de ses œuvres. La première œuvre, c'est lui qui l'a composée, qui l'a écrite. Donc il va diriger son œuvre pendant comme
ça. Jamais mieux servi que par soi-même.
10 petites minutes. Et puis après, c'est un double concerto avec des solistes qui sortiront de l'orchestre de Lyon, qui seront au violon et au violoncelle. C'est le double concerto de Johannes Brahms. Et puis deuxième partie, la symphonie de César Franck, l'unique symphonie. Il y en a qu'on a écrite combien certains en ont écrit des symphonies de cinquantaine, je ne sais combien. Lui, César Franck, une seule. Et tu le sais très bien, c'est ce que disait Eric Satie. Il vaut mieux avoir l'âge de César Terre que celui de César Franck. C'est à l'auditorium cette semaine. Et puis voilà, sur ce, allez donc voir cette exposition. Et puis la semaine prochaine, Antoine Glatter, chef d'orchestre, très jeune chef d'orchestre, voilà, qui dirigera des concerts gratuits pendant les vacances scolaires. Certes, ce seront des musiciens un peu jeunes sur scène, mais c'est très bien, la gratuité. L'expo actuellement est gratuite, mais si vous souhaitez acquérir des œuvres, elles sont peut-être un peu onéreuses. Ça, écoutez, essayez de voir avec Marjolaine Larrivé si elle peut faire un peu de.
On ne vous parlera pas du Festival Lumière.
Non.
On ne vous parlera pas de la rétrospective Yann Fabre et du MAC non plus. Bon, voilà. C'était spectaculaire.
Restez à l'écoute.
Sens fort du terme.
Des programmes de Radio Canu. Tout à l'heure à venir, Son Bâtard peut-être. 17h, on n'arrête pas le prog. Et puis 18h, un méga combi. 19h, Canu Info. Isa, de la musique, PNL, ça continue à cartonner, ouais.
Ouais, ça marche toujours aussi bien.
Normal, très bien. Bon mercredi à tous. Merci encore, Secret Savonnette.
Merci.
Et puis,
salut, merci.
Ciao tout le monde. Au revoir.